toutes et à tous, bienvenue dans Sortie de veille, le podcast hebdomadaire de Mac Génération. Tim Cook l'avait reconnu dès le départ, Apple Intelligence risque de faire des bourdes. Eh bien, cela s'est vérifié il y a quelques jours. La BBC s'est insurgée contre Apple Intelligence en raison d'un résumé très trompeur pour une de ses notifications. Comment Apple peut-elle éviter d'autres bévues de ce type? On va en discuter avec Christophe. Dans le reste de l'actualité, la Commission européenne veut qu'Apple ouvre encore plus iOS. Apple aurait abandonné son projet d'abonnement pour la location d'un iPhone. Et le prochain iPhone SE aura peut-être un nom très original. Nous sommes le samedi 21 décembre. Voici les infos de la semaine qu'il ne fallait pas manquer. Ça y est, c'est les vacances. Les vacances scolaires en tout cas. On s'attendait un peu à ce que l'actualité ralentisse ces derniers jours, mais ça n'a pas été le cas. Il y a eu encore pas mal de sujets importants. Salut Christophe, tu vas bien ?
Salut Stéphane, ça va très bien et toi ?
Ça va bien, ouais. Est-ce que tous tes cadeaux de Noël sont prêts maintenant ?
Presque, il en manque encore un. Mais ceci dit, je me faisais la réflexion que cette année, il y a eu très peu de problèmes de disponibilité si on avait cette idée un petit peu farfelue d'offrir un cadeau Apple. Il y avait à peu près tout en stock.
C'est vrai, ça s'est bien passé au niveau des livraisons. Oui, bah, il n'y a pas eu de pandémie qui a compliqué la production, donc tant mieux. Ouais. Alors cette semaine, on a beaucoup parlé d'Apple Intelligence. On a appris entre autres qu'Apple discutait avec plusieurs acteurs chinois pour parvenir à exporter sa technologie en Chine. On a aussi pris connaissance d'un sondage selon lequel les utilisateurs d'iPhone n'accorderaient pas beaucoup d'importance à l'IA dans les smartphones, en tout cas pour le moment. Mais le plus important, c'est cette grosse erreur d'Apple Intelligence qui a fait bondir la BBC. Alors pour rappel, une des fonctions d'Apple Intelligence, c'est de résumer automatiquement les notifications qui sont envoyées par les applications. Et donc la semaine dernière, la BBC a envoyé une notification push concernant l'affaire de l'assassinat du patron d'une grande compagnie d'assurance maladie aux États-Unis. Et cette notification, en fait, Apple Intelligence l'a résumée en faisant une énorme erreur, puisque le résumé indiquait que l'assassin présumé s'était suicidé, ce qui n'était pas du tout le cas. Ça a bien évidemment affolé la BBC, qui s'est émue que son travail puisse ainsi être déformé, et qu'elle délivre malgré elle une fausse information. Comment Apple peut faire pour éviter d'autres erreurs de ce type, et d'autres polémiques de ce type aussi, Christophe ?
Oui. Il y a également Reporters sans frontières qui s'en est ému, demandant le bannissement de la fonction résumé, le tout en cherchant à sensibiliser l'Union européenne et l'ONU sur le sujet. Alors, l'exemple de la BBC étant un peu touchy, je préfère basculer sur quelque chose d'un peu plus léger pour évoquer le sujet. Je me suis demandé ce qu'Apple Intelligence pourrait donner chez nous un jour de keynote avec les notifications de l'app. Si tu mélanges les rumeurs, les annonces, les produits qui ont été annoncés en sous-main, en septembre dernier, il aurait très bien pu dire que Apple avait lancé finalement l'Apple Watch Ultra 3, que les AirPods Max aient eu le droit à une refonte complète, et pour finir, que Tim Cook était présent à Lyon pour partager une pizza avec l'équipe de Mac G.
Ah oui, sympa.
Bon, tout est possible finalement. Dans les fichiers de configuration de ces modèles, Apple demande à son IA de ne pas halluciner, il faut croire que ce n'est pas suffisant.
Ouais.
Alors, bon, je ne suis pas expert, j'ai pas la moindre solution. Il semble difficile, quoi qu'il en soit, pour l'heure, de trouver une solution qui soit fiable à 100%. Alors, peut-être que la solution est de laisser la possibilité aux éditeurs d'applications de refuser cette fonctionnalité. Mais ce n'est sans doute pas suffisant. Beaucoup reçoivent aussi des informations, enfin, je parle d'actualité, hein, via les apps de réseaux sociaux. Alors, si on exclut d'Apple Intelligence, enfin de la fonction résumée, les notifications des apps d'actualité et des réseaux sociaux, qu'est-ce qui va rester à la fin ? L'autre possibilité, ce serait d'arriver à faire en sorte que les résumés produits par Apple Intelligence soient beaucoup plus vagues. Après, je ne sais pas qu'est-ce qui est possible de faire exactement. Mais voilà, imaginez, pour finir, si cette fonctionnalité avait été lancée avant la présidentielle américaine et que Apple Intelligence aurait eu l'idée d'annoncer la victoire de Kamala Harris, ça aurait été un petit tremblement de terre. Et là, je pense que Tim Cook aurait eu les oreilles qui tremblent pendant quelques semaines.
En tout cas, c'est pas terminé. Hein. Apple s'est pas encore exprimé sur ce sujet. On verra comment elle essaye de résoudre ce problème au cours des prochains mois. On ne pouvait pas terminer l'année sans un nouvel épisode de la saga DMA. Et oui, cette semaine, la Commission européenne a exigé d'Apple une plus grande ouverture d'iOS. Alors, ça fait depuis le départ que le DMA prévoit une ouverture d'iOS, mais cette fois-ci, il est question de fonctionnalités liées au matériel. La Commission européenne veut qu'AirDrop, le jumelage rapide, AirPlay ou encore le changement automatique de source audio soient disponibles pour les appareils de marques concurrentes et pas seulement pour les produits Apple. Alors, pour résumer à gros traits, il faudrait que les écouteurs de Samsung ou de Google s'intègrent presque aussi bien à iOS que les AirPods. Ça plaît pas du tout à Apple, hein, qui a déjà reçu de la part de Meta 15 requêtes d'interopérabilité pour ses lunettes connectées et son casque de réalité virtuelle. Alors Apple assure qu'elle s'oppose à ces demandes pour protéger la vie privée de ses utilisateurs. Est-ce que c'est un vrai argument, ça ?
Alors j'ai une première réflexion qui est quand même très naïve dans cette affaire. Elle n'est pas nouvelle, mais voilà, elle se répète. Donc, dans ce que tu nous expliques, il est question d'Apple, de l'Union européenne, de Meta, d'autres acteurs de l'industrie high-tech qui agissent également sous main pour faire avancer, on va dire, leurs idées. Mais on n'entend jamais parler de citoyens ou d'utilisateurs. On va se demander, parce qu'ils ont peut-être également un avis sur la question, et ça reste la grande inconnue. Alors, ça peut paraître démagogue ce que je dis, mais je trouve que c'est... Enfin, ils ont le droit aussi à la parole.
Ce processus d'interopérabilité est ouvert à tous les développeurs, hein. Mais voilà, c'est Apple qui a décidé de répondre à la Commission européenne en prenant l'exemple de Meta.
J'avais effectivement oublié d'en mener, c'est des développeurs qui sont entendus. Alors, Meta a raison sur un point, Apple utilise à tort et à travers l'argument de la sécurité, et à force de l'utiliser, celui-ci perd sa valeur. Je prends l'exemple de la NFC, et c'est vrai que sur ce point, Apple n'a pas été finaude. Alors, c'est vrai qu'à la base, ça pouvait être un peu touchy, et on aurait pu comprendre qu'elle se réserve cet accès pendant 2-3 ans, le temps de s'assurer que tout marche bien en matière de sécurité, et puis éventuellement d'imposer discrètement Apple Pay. Puis voilà, puis passer cette période de dire « ça y est, on est confiant dans la sécurité de notre dispositif, on peut l'ouvrir plus largement ». À la place, il a fallu attendre des années pour qu'elle fasse de toutes petites concessions, mais c'était déjà trop tard. Alors, par rapport aux différents points que l'Union européenne évoque, moi j'ai deux trois réflexions. Alors, les 11 points mentionnés, il y en a 11, hein, je crois, de mémoire. Oui. Alors, évidemment, ça se discute, il n'y a pas de souci, mais franchement, est-ce un problème majeur de l'humanité ou bien même seulement des nouvelles technologies ? Alors, je prends un exemple, j'ai écrit, et le test va bientôt paraître, je crois que j'avais évoqué cette affaire. J'ai écrit un test sur le casque Shox OpenRun Pro 2, d'ailleurs que j'ai beaucoup aimé. Et jamais je me suis dit « Ah, c'est dommage qu'il n'a pas la techno Apple pour la connexion rapide. » Mais pour être honnête, il fait un meilleur job pour gérer deux appareils à la fois que des AirPods.
Parce qu'il y a le Bluetooth multipoint, c'est ça ?
Ouais. Il le gère très bien, ouais. Alors, je ne sais pas comment exprimer ce second point, mais à la fin... L'Union européenne ne cherche pas à faire que des changements réglementaires avec Apple. Elle cherche à faire évoluer significativement son ADN. Alors, le discours d'Apple, qui est quand même vrai, hein, c'est que la simplicité de ses solutions vient du fait qu'elle maîtrise le logiciel, le matériel et le service. Elle a expliqué cette équation, enfin, je veux dire, depuis, ça fait des années et des années, quoi. Et l'Union européenne, elle cherche précisément à casser ces liens-là. Alors, en tant qu'utilisateur Apple, ça m'embête. Et quand je dis ça, je ne dis pas qu'il ne faut pas réguler quand il y a matière à réguler. Et par exemple, pour la NFC, c'est clair que c'est très bien que l'Union européenne se mêle de ce dossier-là. Alors, ma dernière réflexion, elle est plutôt gratuite, mais voir Meta s'investir autant dans ce dossier, ça me rassure pas spécialement. J'en veux dire
c'est
que
pas,
j'ai
c'est pas étonnant. Il profite des possibilités maintenant offertes pour faire avancer leurs produits et mieux s'intégrer. Parce que c'est aussi ça l'enjeu pour eux. C'est vrai qu'il y a quand même deux plateformes qui sont hyper dominantes, Android et iOS. Pour des lunettes connectées ou pour un casque de réalité virtuelle, enfin peut-être un peu moins pour un casque de VR, mais la connexion smartphone est indispensable encore. Alors s'ils peuvent avoir une meilleure connexion smartphone, effectivement c'est intéressant pour eux.
Clairement. Après, je suis pas sûr que ce ne soit que ces points qui les intéressent. Ça, c'est d'une première part, d'une première chose. Et la deuxième chose, il y a pas que Meta. Bon, alors là, on n'en parlait pas, mais Alphabet essaie aussi de faire évoluer les choses dans son sens et dans leur sens. Et ils sont tous comme ça. Voilà. Enfin, voilà. C'est C'est, à la fin, il y a un énorme travail de lobby de la part de tous les acteurs qui est fait auprès de l'Union européenne. Et c'est ce qui rejoint un petit peu mon tout premier point, c'est-à-dire qu'on entend beaucoup les sociétés, elles essaient effectivement, à tort des fois, à raison également, de faire avancer leurs idées, leurs convictions. Mais voilà, mais les utilisateurs, on ne les entend pas.
On va passer à un tout autre sujet. Alors Apple aurait mis un terme à son projet d'achat, peut-être plutôt de location de matériel par abonnement. Petit retour en arrière, en 2022, Bloomberg affirmait qu'Apple travaillait sur une nouvelle offre pour l'iPhone. L'idée aurait été de payer chaque mois une certaine somme pour avoir un iPhone, et puis au bout de 12 mois, on aurait eu droit à l'iPhone de nouvelle génération. Alors ça ressemble beaucoup à l'iPhone Upgrade Programme qui est disponible dans une poignée de pays, mais l'idée aurait été de rendre ça encore plus simple, puisque on aurait pu utiliser le crédit dont on dispose sur son compte Apple pour s'offrir un iPhone. C'est plutôt étonnant de voir Apple abandonner ce projet, non? Parce que les abonnements, généralement, c'est quelque chose que toutes les boîtes aiment beaucoup.
Oui, c'est certain. Surtout Apple. On attendait beaucoup, effectivement, ce forfait Apple. Mais alors, il y a plein de petites choses. Tout d'abord, bon, Apple, c'est pas qu'elle s'en rend compte, mais la finance est un domaine compliqué. Mmh. L'autre jour, on expliquait, par exemple, qu'elle avait été à deux doigts de lancer son service d'achat et vente d'actions, mais que Tim Cook n'était pas à l'aise avec l'idée que ses clients puissent perdre de l'argent. Donc voilà, ça c'est le premier point. La deuxième chose, c'est que ça reste... Enfin, il y a quand même... c'est très complexe, toutes les règles financières à prendre en compte, et en plus, ça change d'un pays à l'autre, donc c'est quand même une sacrée tuyauterie. Par rapport aux clients, ça peut leur faciliter la vie d'une certaine façon, mais ça peut aussi leur donner l'impression quand même d'être dans une jolie cage dorée. Et je suis certain que les régulateurs trouveraient quelque chose à redire. Tout ça, alors voilà, pourquoi est-ce que ça vaut la peine de se donner tant de mal, sachant que les possesseurs d'iPhone sont parmi les plus fidèles, enfin ça c'est pas nouveau, hein. Les utilisateurs d'Apple ont tendance à, lorsqu'ils renouvellent, à reprendre des produits Apple. Et ce travail de fidélisation et de changement de terminaux, il y a des sociétés qui font cela très bien, on appelle cela des opérateurs de téléphonie mobile.
Oui c'est ça, si tu veux payer ton iPhone avec un forfait mensuel, c'est déjà possible quoi.
Voilà, voilà. Donc, tout ça fait qu'il n'y avait peut-être pas forcément grand-chose à gagner à la fin pour Apple. Mais peut-être que ce business model pourrait être utilisé pour des produits à venir. On ne sait-on jamais. Enfin, ça avait été évoqué, l'histoire. Enfin, on savait sans doute que pour la voiture Apple, Apple aurait pu utiliser d'autres business models que la vente pure et dure. Voilà, et puis je ne sais pas si pour des produits... Enfin, voilà, on en parlait. C'est également le cas, pardon... pour l'Apple Watch, où on peut se dire, à terme, c'est peut-être quelque chose que la mutuelle ou une sécurité sociale pourrait te donner et qui pourrait être financée autrement.
On va terminer le tour de l'actu avec une rumeur concernant le prochain iPhone SE. Alors l'iPhone SE de 4e génération ne s'appellera peut-être pas iPhone SE 4. D'après un leaker chinois, il pourrait en effet s'appeler iPhone 16e. Oui, un 16 et un E. Alors, c'est à prendre avec des grosses pincettes, on n'a pas encore eu le son de cloche de Mark Gurman, notamment. Mais j'ai envie de dire, ben, pourquoi pas pour ce nom. Ça serait plus vendeur qu'iPhone SE, en tout cas. Toi, tu en penses quoi?
Moi, j'aime bien l'appellation SE parce que ça me rappelle le Mac SE, alors rien que pour ça...
Ah oui, bah ça, oui mais ça ne parle pas, je pense, à la plupart des utilisateurs d'iPhone SE.
Oui, mais c'est important. Non, il y avait un truc que je... Enfin, SE, dans mon esprit, ça voulait dire Special Edition. Mm-hmm. À l'inverse, l'iPhone 16e, quand j'ai pensé tout de suite au E, j'ai pensé à économique. Ouais. C'est pas super vendeur. Non, mais après, je sais pas, on verra bien et on verra comment un peu nous le vend. Le plus important, c'est que cet iPhone SE 4 ou cet iPhone 16e, sur le papier, il me semble très, très, très prometteur. Donc voilà, ça fait partie des produits qu'on attend avec impatience pour le premier semestre 2025. Absolument. Après, l'autre question, c'est voilà, un iPhone E, un Mac E, une Apple Watch. Je sais pas, je demande à voir.
Ouais. Est-ce qu'il faudrait appeler des autres produits E? C'est pas sûr que ça fonctionne bien avec les autres produits. Ouais.
Mais je pense que ce serait malin d'Apple de lancer, entre guillemets, voilà, une gamme SE, enfin une gamme de produits premier prix de qualité. Mmh. Et on l'a plus ou moins parce qu'on a déjà, l'iPod d'entrée de gamme, c'est l'iPod SE quelque part. L'Apple Watch, Apple Watch SE, ça existe. L'iPhone SE. Et c'est peut-être quelque chose qui ferait que, voilà, moi je pense que elle devrait. C'est un peu ce qu'elle fait en ce moment encore avec le MacBook Air M1 qu'on retrouve par moment encore à la vente à des prix très très intéressants. Je pense qu'il y aurait peut-être un coup à faire, un sort de MacBook Air SE, un MacBook SE qui serait vraiment destiné voilà, pour les personnes qui ont des petits budgets ou pour le monde de l'éducation. Il y a peut-être un truc à faire.
Bah écoute, merci pour ce retour sur l'actu, Christophe. Je te souhaite de très bonnes fêtes.
Bah, bonne fête à tout le monde, bonne fête à toi aussi, joyeux Noël, et voilà, et bah, on se retrouve très vite.
Bonne fête à tous, on vous souhaite effectivement de passer un très joyeux Noël, et puis on vous retrouve la semaine prochaine pour un numéro très spécial. On va faire en effet un récap de l'année 2024 d'Apple, Vision Pro, Apple Intelligence, DMA. On va revenir sur cette année très chargée. À la semaine prochaine, salut à tous.